Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Épisode spécial. Il s'ajoute à celui que je diffuse tous les dimanches. Pourquoi ? Un concours de circonstances, à vrai dire. Durant cette période ô combien inédite, complexe et douloureuse, je voulais créer un contenu supplémentaire à impact positif et adapté aux circonstances, mais je ne me sentais ni légitime ni apte à le faire. Au même moment, il y a quelques heures, une vingtaine d'heures, un de mes invités, devenu un de mes plus précieux amis, Jonathan Lehmann, le Bouddha d'aujourd'hui, m'a envoyé ce que vous allez pouvoir entendre en bonus. Son second ouvrage, « Les antisèches du bonheur », vient de sortir et sa promotion a été stoppée net par l'actualité dramatique actuelle. Fruit de près de 10 années de recherche, d'expérimentation et de partage sur la question du bonheur, ce livre est une petite pépite. Fondé en partie sur une approche originale de la méditation, « Les antisèches du bonheur » rassemble les principes et pratiques qui ont transformé sa vie et sûrement celle d'autres personnes. Selon moi, la parole de Jonathan doit rayonner et particulièrement en ce moment. Voilà pourquoi, tous les deux avec Jonathan, on vous propose ensemble ce contenu spontané qui s'appelle « Journal intime d'un confiné ». Le son n'est pas parfait, vous allez vous en rendre compte parce que ça part quand même d'une voice note WhatsApp, mais c'est fait avec cœur, authenticité, dans l'urgence, pour juste aider un maximum. Durant ces quelques minutes, il nous aide à lutter contre nos pensées négatives durant le confinement, à nous sentir moins seuls, à se concentrer sur les choses spécifiques pour maintenir un état de gratitude, et à la fin, il vous propose une méditation guidée. J'espère sincèrement que cet épisode aura un impact positif sur vous. Je vous embrasse fort, je vous souhaite bon courage, et je vous laisse en compagnie de Jonathan Lehmann, l'inventeur de la communauté des antisèches du bonheur.
Bonjour, je m'appelle Jonathan Lehmann, je suis un étudiant à plein temps du bonheur. J'écris des livres sur la science du bonheur, j'ai créé une communauté qui s'appelle les antisèches du bonheur et j'ai aussi une application de méditation guidée. Et on est le vendredi 20 mars, c'est je crois le cinquième jour de confinement pendant le coronavirus. Et vu cette casquette d'étudiant du bonheur et tout ce travail que je fais, j'ai reçu beaucoup de sollicitations pour prendre la parole et essayer d'apporter du contenu qui puisse soulager les gens parce qu'on est de plus en plus à ressentir du stress, à ressentir de l'angoisse et à ressentir toutes sortes d'autres émotions négatives qui rendent ce temps de confinement pour certains vraiment difficile à supporter. Je dois vous dire que je suis un peu tétanisé, je sais pas là comment prendre la parole, sous quelle forme, ça risque d'être un petit peu brouillon au début. Je suis tétanisé parce que moi ça va là. Je suis pas dans des conditions qui sont mes conditions de vie préférées. Mais j'ai tout à fait conscience du fait que il y a des gens aujourd'hui qui sont en souffrance, qu'il y a des gens qui vont mal, et quelque part je me sens un peu un imposteur de venir et d'essayer de donner des conseils. Je suis seul dans un appart qui fait 40 mètres carrés, donc j'ai de l'espace, il y a plein de lumière chez moi, on a encore l'exception de sport qui nous permet de prendre un peu l'air. J'ai aucun très très proche qui est malade, et quand je vois la souffrance qu'il y a en ce moment, je me dis que je suis un privilégié et qu'il faut que je fasse quand même attention avec ce que je vais partager. Cela étant dit, je sens qu'il y a un besoin et que j'ai peut-être quand même quelque chose à apporter au Schmilblick. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là avec ce contenu audio. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai même si j'ai aucun très très proche qui est affecté, il y a le père d'une amie qui est gravement malade. Et la première pensée que j'ai envie d'avoir, c'est pour toutes les personnes qui sont malades, qui ont quelqu'un de malade dans leur famille, ou même qui ont déjà connu un décès, juste avoir une pensée pour ces personnes et de leur envoyer plein d'amour. Maintenant, c'est vrai que on a tendance tous à réfléchir à plusieurs niveaux. On est capable de penser aux gens qui sont en grande souffrance, mais ça n'empêche pas de nous ressentir nos propres souffrances et qui sont tout à fait valides, même si c'est pas les souffrances les plus graves qu'il puisse y avoir. Et pendant cette crise, il nous manque à tous quelque chose. Il y a tous quelque chose qu'on perd. Je vais vous parler de moi, ça va être le thème là, surtout si je continue cet exercice. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur un bouquin qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur et qui est sorti il y a un peu moins de 3 semaines. Normalement, je devrais être en promo là, faire des conférences, faire des dédicaces, des émissions de télé, de radio, toutes sortes de choses pour partager ce contenu qui, je pense, peut toucher vraiment beaucoup de gens parce que c'est une synthèse en fait de ce que je partage depuis 10 ans et qui a touché des gens. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que une dimension altruiste là-dedans. Ce serait tellement malhonnête de dire ça. Il y a une dimension égoïste qui est que j'ai envie de pouvoir aussi avancer personnellement avec mon travail. Actuellement, je vis dans un studio et dans lequel je suis très confortable, mais j'aspire peut-être un jour à avoir, comme j'avais jadis quand j'étais avocat d'affaires, une chambre avec une porte, pouvoir travailler et dormir dans deux chambres différentes. Enfin bref. Donc voilà, moi ma situation c'est cette promo qui tombe au pire des moments. Ce livre que j'aimerais pouvoir partager et qui est plus difficile à partager. Donc, une autre chose qui me manque évidemment, c'est que je suis seul chez moi. Être seul chez soi dans un moment comme ça, ça a évidemment un côté angoissant. Personnellement, j'ai la chance d'avoir fait des retraites de méditation assez longues, notamment une retraite de méditation Vipassana qui dure 10 jours. Où on est en isolement pendant ces 10 jours, en tout cas on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se toucher, donc ça m'a un petit peu préparé à ça, mais nonobstant cette préparation, je dois dire que j'ai quand même peur de cette absence de contact humain, de pas pouvoir toucher et être touché, de pas pouvoir prendre des amis dans les bras. On est que dans la première semaine, mais déjà j'entrevois que ça va être quelque chose qui va me manquer, d'autant que on sait le résultat neurochimique de ces interactions chaleureuses. Je crois que quand on fait une étreinte, il y a de l'oxytocine qui se relâche dans le cerveau, qui est une des humeurs hormones du bonheur. Le toucher, c'est extrêmement important. Et donc, quand on n'a pas ça, comme c'est mon cas actuellement et sans doute pour les semaines à venir, il commence à manquer quelque chose d'important à notre équilibre neurochimique. Et donc, peut-être pour les familles qui sont ensemble et qui certaines ont envie de s'entretuer, on peut aussi se rappeler c'est la chance malgré tout de savoir les uns les autres, de pouvoir se toucher, être ensemble. Mais ça, c'est le travail de gratitude dont on va parler un petit peu plus, qui est le thème central dont j'ai envie de parler pendant cet enregistrement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tout ce qui me manque, c'est rien par rapport à certaines angoisses que certaines personnes rencontrent actuellement, évidemment en premier lieu les angoisses de santé, et puis il y a des angoisses matérielles, il y a des personnes qui arrêtent de travailler, qui savent pas comment elles vont payer le loyer, il y a des personnes qui vont sans doute perdre leur emploi. Ces thématiques de la peur, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle aussi dans des enregistrements à venir. Mais le thème principal dont je veux parler maintenant vraiment, c'est le travail de gratitude qui me semble être le plus important que jamais. Pour comprendre ce travail de gratitude, faut déjà comprendre comment fonctionne notre cerveau. Comprendre que notre cerveau est en proie à un phénomène cognitif qui s'appelle le biais de négativité et qui nous dit que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau que la pensée positive. Un exemple que j'emploie souvent, c'est de dire que si je vous fais 9 compliments et un reproche, il y a des très grandes chances que dans 3 jours, ce soit le reproche dont vous vous souveniez en priorité. Et c'est bien dommage qu'on ait ce biais de négativité alors qu'on recherche le bonheur. Mais on peut tout à fait le comprendre dans la mesure où sur les à peu près 300 000 années qu'on a passé à vivre sur cette terre, les sapiens, on en a passé à peu près 285 000 à être des bêtes sauvages qui devaient éviter les dangers et la mort. Et c'était donc dans ce climat-là beaucoup plus important de savoir éviter un signal négatif plutôt que comme la présence d'un prédateur, plutôt que de privilégier un signal positif, comme un fruit sucré par exemple. Et depuis qu'on a changé notre logiciel, qu'on est passé d'un logiciel survie à un logiciel bonheur, notre cerveau, il a pas eu le temps de s'adapter. Et donc, il y a toutes sortes de bugs. Et le fait de privilégier le reproche aux 9 compliments, c'est un de ces bugs. Et je pense que le bug, on est en train de le vivre tous fort. À savoir prendre ce qu'on a pour acquis et se concentrer sur ce qui nous manque. La bonne nouvelle, la super nouvelle, c'est qu'il y a un remède à ce biais de négativité qui nous fait voir plus ce qui nous manque que ce qu'on a. Et ce remède, c'est une des grandes découvertes scientifiques de ces 30 dernières années. C'est le phénomène de neuroplasticité qui nous dit que, nonobstant le fait que notre cerveau, c'est un cerveau de bête sauvage qui privilégie le négatif, le cerveau, il évolue toute la vie en fonction de la manière dont on s'en sert. Le cerveau, il est comme de la pâte à modeler. C'est ça la neuroplasticité. Et donc tout ce sur quoi on va se concentrer intentionnellement va devenir de plus en plus important dans la réalité virtuelle qui est notre perception de la vie. Et ça, c'est un point qui est hyper important, qui est que la façon dont moi je perçois la vie, elle est différente, et la façon dont toi, auditeur, tu perçois la vie, elle est complètement différente de la façon dont toutes les autres personnes perçoivent la vie. C'est pour ça que je parle de réalité virtuelle subjective. Et cette réalité virtuelle subjective dépend de ce sur quoi on se concentre. Elle dépend aussi des mots qu'on emploie. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais parler sans doute aussi dans un prochain enregistrement. Et donc, pour comprendre le lien qu'il y a.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Entre neuroplasticité et cette réalité virtuelle subjective, on peut penser à la composition du cerveau. Des milliards de neurones. Et à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones. À chaque fois que j'active une pensée, je renforce le réseau de neurones relatif à cette pensée. Si par exemple, j'entretiens la pensée, j'adore mon bol de céréales du matin avec la poire que je coupe en petits morceaux, et bah, le réseau de neurones relatif à cet enchaînement conceptuel va se renforcer. Si je dis « j'en peux plus de ce confinement de merde, je deviens ouf, je m'ennuie à mourir », et bah, l'enchaînement conceptuel relatif à ça va aussi se renforcer dans le cerveau. Et en se renforçant dans le cerveau, il va augmenter les chances que ce réseau de neurones se réactive de lui-même automatiquement dans le futur. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ce que nous dit la neuroplasticité, c'est qu'en fait, il n'existe aucune pensée anodine. Et c'est peut-être le point le plus important de cet enregistrement. Chaque fois que je formule une pensée, je suis non seulement en train d'affecter ma réalité à l'instant présent, mais je suis encore et surtout en train d'envoyer un signal à mon cerveau de « s'il te plaît, resserre-moi cette pensée dans le futur ». Pour mieux comprendre ça, on peut comprendre aussi le fait que on a tous deux systèmes de pensée, ce que les cognitivistes appellent le système 1, le système 2, la pensée automatique, la pensée délibérée. Et que au travers de la neuroplasticité, l'emploi délibéré de notre pensée vient constamment refaçonner notre pensée automatique. Et donc ce que ça veut dire par exemple, c'est que ma pensée automatique peut me suggérer la pensée journée de merde ou j'en peux plus ce confinement, mais libre à moi ensuite avec ma pensée délibérée de décider si je vais donner de l'énergie à cette pensée qui est automatiquement suggéré par mon mental. Et donc l'idée clé, c'est que nos pensées qui déterminent notre réalité virtuelle et qui déterminent donc notre faculté à être heureux, elles fonctionnent en cercle vicieux et en cercle vertueux. Je peux être en plein cercle vicieux où je me plains, où j'engueule les autres et où tout ça, ça vient renforcer le négatif dans mon cerveau, mais je peux en sortir en rentrant dans une spirale de positif. Et c'est comme une gymnastique du cerveau. De la même manière que on va soulever des haltères pour renforcer ses muscles, plus je vais me concentrer sur du positif, plus je vais renforcer les réseaux neuronaux relatifs à ces enchaînements conceptuels positifs, plus je vais avoir des histoires et des pensées positives qui vont me venir en tête, et plus donc je vais ressentir du bonheur naturellement. Et c'est ça en fait dont il s'agit quand on parle de la pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude, c'est tout simplement se concentrer sur les bonnes choses dans nos vies. Et c'est quelque chose dont nous parlent les spiritualités depuis des siècles. Mais la science contemporaine, notamment le champ d'étude qui est la psychologie positive, est venue confirmer les bienfaits neurologiques de cette pratique depuis à peu près une quinzaine d'années. Avec toutes sortes d'études qui montrent que le simple fait de se concentrer sur les bonnes choses de nos vies avait tendance à renforcer significativement la capacité du cerveau à créer du bonheur naturellement. Les sagesses ancestrales ont tendance à nous dire de dire merci à la vie, merci Dieu, merci pour ma famille, merci pour la nourriture dans mon assiette. Ce que nous disent les sciences cognitives, c'est que pour renforcer la capacité du cerveau à créer du bonheur naturellement, il faut savoir se concentrer sur des choses qui sont spécifiques. Donc merci pour la poire bio trop bonne que je coupe dans mes céréales le matin. Il m'en reste encore quelques-unes d'ailleurs. Merci pour la super conversation que j'ai eue avec mon pote Anto qui m'a trop fait rire. Merci pour le fait qu'il y a encore l'exception sportive qui permet de prendre un peu l'air et de courir. C'est comme ça en fait qu'on pratique la gratitude. Un autre aspect de ce travail de gratitude, c'est de pour comprendre ce qu'on a nous et qu'on a tendance à prendre pour acquis, c'est de voir qu'est-ce que d'autres n'ont pas. Et ça recoupe aussi un peu le travail qu'on pourrait appeler de compassion, dont on parlera, j'espère, plus tard. Mais quand je pense aux personnes qui sont malades, je peux ressentir de la gratitude pour le fait d'être en bonne santé. Quand je pense à ma famille qui va bien, je peux peut-être penser aux familles de malades, même de familles de personnes décédées. Quand je pense à moi, peut-être je m'ennuie ou peut-être je suis surmené avec mes enfants qui arrêtent pas de crier et c'est compliqué et tout, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux soignants qui sont dans un état de stress maximal, qui doivent faire face à des décès constants, se rendre compte que beaucoup de ces choses qui nous semblent difficiles bah, par rapport à d'autres, elles le sont sans doute pas tant que ça. Quelque chose qui est important pour moi avec ce podcast, c'est de pouvoir donner des outils concrets. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour ressentir de plus en plus ce bonheur naturel que va nous donner la gratitude? Il faut une pratique rituelle de la gratitude. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire quelque chose quotidiennement. Ça n'a pas besoin d'être long du tout, mais faire quelque chose quotidiennement qui nous permet de cultiver la gratitude. La méthode reine, la méthode phare, c'est la méthode qui s'appelle le carnet de gratitude. C'est avoir un carnet et dans le carnet lister les choses positives. Je sais pas moi, l'épisode hier de Quotidien avec Yann Barthès qui m'a fait trop marrer, ou le même que m'a envoyé ma pote Sarah, ou je pense toujours à mes céréales, mais je me fais des pâtes aussi en ce moment fraîches qui sont délicieuses. Ce genre de choses, on l'écrit dans le carnet. C'est prouvé scientifiquement qu'au bout de 3 semaines seulement, il y a un vrai changement dans notre capacité à avoir du bonheur et surtout dans la force que le biais de négativité et la pensée négative va avoir sur nous en ce qu'elle va être évidemment diminuée. Moi, j'ai tenu un carnet de gratitude pendant hyper longtemps, je le fais plus trop. Parce que l'habitude a vraiment été intégrée dans mon quotidien. J'ai 2 pratiques aujourd'hui. Il y en a une que je vous recommande vraiment de faire pour commencer. C'est tellement simple. C'est ce que j'appelle la douche de gratitude. C'est au moment de prendre sa douche, lister 3, 5 à 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant, des choses très spécifiques, un câlin avec mon fils, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, que je kiffe trop, depuis la dernière douche. Ça prend 30 secondes. Faites-le pendant 30 secondes. Moi, j'ai des retours de vraiment maintenant milliers de personnes de la communauté des antisèches du bonheur qui me disent que ces 30 secondes, c'est le meilleur investissement de temps qu'on puisse faire pour faire échec à la tyrannie du mental et au biais de négativité. Une autre chose que je fais, que j'aime bien, on parlera plus de méditation dans le futur, mais c'est une mini-méditation le soir où juste je passe ma journée en revue en y apposant un filtre de gratitude. Donc je pense à toutes les choses qui se sont passées, les bons appels téléphoniques, etc. La prochaine fois, je vous parlerai de méditation, parce que ça me semble être vraiment une pratique essentielle pour réussir à survivre pendant cette période de confinement. J'ai moi-même une application de méditation guidée qui s'appelle Seven Mind, que vous pouvez utiliser si vous savez pas par où commencer. Avant de se quitter, je voudrais vous inviter à faire une mini méditation avec moi. Si vous voulez pas la faire, je vous dis au revoir. Elle est optionnelle. Si vous voulez bien, je vous invite, ça va durer 3 minutes, à vous asseoir de façon confortable, avec les pieds fermement ancrés dans le sol, avec le dos droit, mais sans que ce soit trop droit et inconfortable. Et si vous le voulez, fermez les yeux afin d'en rentrer à l'intérieur de vous. Et fermez la bouche afin de respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Et devenez complètement immobile. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui entre et sort de vos narines. Et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et remarquez comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Et si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand vous en rendez compte, ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines. Et sans forcer, tâchez de ralentir votre respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient vous caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de votre corps. Et comme si ce filet d'air était une substance magique qui vous apportait de la joie à chaque inspiration. Et progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Et votre respiration de plus en plus lente. Et avant de terminer cette mini-méditation, observez vos émotions du moment comme si vous les inspectiez de l'extérieur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de cette mini-méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui vous entoure, tel que le poids de vos vêtements sur vos corps, les bruits ambiants et toutes les couleurs autour de vous. J'espère que cette mini-méditation vous a fait du bien. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas à me donner du feedback sur ce nouveau contenu, parce que c'est vraiment... je suis dans les balbutiements. Mon intention, c'est d'essayer d'apporter quelque chose qui puisse faire du bien. Donc, si vous avez des idées sur comment mieux accomplir cet objectif, je suis hyper preneur. Je vous remercie, je vous embrasse fort. Et courage à tout le monde.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.